Le bain des oiseaux. Après avoir erré pendant quelques instants à travers bois, j'étais arrivé par une sorte d'embrasure qui s'ouvrait au milieu des taillis à une clairière bordée d'un côté par des roches moussues. Charmante clairière semée de marguerites, pareille à un lambeau de prairie, arrosée par un filet d'eau qui se dissimulait çà et là dans les herbes, et qui la rendait toute fraîche et toute humide. Le sentier que j'avais suivi était encombré par les plantes épineuses et envahi par les branches de mûrier. Des taons y bourdonnaient, et par moments, de leurs antennes, de leurs corselets de velours, qui m'avaient frôlé le visage. J'étais désireux de rencontrer, au bout de mon excursion forestière, un endroit isolé où je pourrais faire halte, en m'asseyant sur le siège gazonné que m'offrait une roche. Lorsque je m'approche du fond des fourrés, j'entends subitement retentir des ramages. C'est un bruit aigu, formé de chants et de pépiments de tout genre, de cris confus, de roulades qui se prolongent, de trilles qui redoublent. Je n'ose avancer, de peur d'effaroucher les oiseaux, qui sont les auteurs de tous ces murmures. D'autres volatiles surviennent, traversent de leur rapide essor le rayon de lumière qui filtre à travers les arbres, et vont rejoindre la bande joyeuse qui prend ses ébats parmi les touffes de fougères et dans le gazon. Un petit vivier s'étend au bout de la clairière. Il ressemble, entouré d'un encadrement de pierre, à quelques bassins abandonnés, creusé peut-être afin d'emprisonner l'eau qui venait d'une source. Et c'est autour de cet abreuvoir que se réunissent les oiseaux. Le vivier les attire. Ils avaient soif et ils se désaltèrent. Ils avaient chaud et ils se rafraîchissent. Ils plongent leur bec dans cette surface limpide. Ils se lavent, ils se mouillent. Et se sentant heureux, savourant d'exquises délices, ils entendent un chant de triomphe et de joie. Je ne sais si je me suis approché trop vite, si j'ai fait quelque bruit dans les broussailles, si j'ai repoussé quelque branche morte qui est tombée sur le sol, mais soudain les hôtes du vivier se sont agités. Ils ont redressé la tête, ils ont rouvert leurs ailes et quelques-uns se sont repliés à peu de distance, et se sont perdus dans l'épaisse feuillée. Oh, qu'ils reviennent! Je ne veux point les troubler. Pourquoi les faire fuir? Je me mets à marcher, à pas compter, en effleurant à peine les bruyères. J'ai avisé un réduit ombragé, et je gagne lentement cet asile de verdure, me promettant d'observer la croupe d'oiseaux qui peu à peu est venue reprendre sa place au bord de l'eau. Ils se penchent, ils se serrent les uns contre les autres, comme si l'instinct les groupait, comme s'ils prenaient côte à côte et ensemble une part de l'espace qui leur est mesuré. Leur tête garde encore une sorte de frémissement qui fait onduler les plumes. Ils sont blottis mollement comme dans un nid. Ils ont jeté à nouveau quelques cris. Ils vont recommencer à chanter. Je suis prêt à les écouter et à faire plus que jamais silence. Ils se repoussent d'un geste, les pattes glissent, se raccrochent sur le bord. J'aperçois de brusques mouvements d'ailes. Les uns boivent, d'autres se trempent d'un geste encore timide. Tous s'enhardissent et se sentent rassurés. Ils se secouent, se redressent, s'étirent, en époustant ou en lissant leurs plumes, qu'ils sont heureux de garder toutes mouillées. Ils ont repris leur ramage, leur caquette étourdissant. C'est parfois un murmure perçant, parfois un roucoulement prolongé comme celui des tourterelles. Et quelques-uns de ces êtres ailés, qui se trouvent déjà assouvis, se détachent de la bande pour suivre ailleurs quelque autre fantaisie. C'est ici, je le sens bien, un lieu de rendez-vous pour ces volatiles. L'endroit est favorable à leurs ébats. La forêt est épaisse, beaucoup de chênes, de frênes et de bouleaux, touffes de genévriers, baies vives et taillis. Je me suis mis à faire le tour de la clairière. Je me suis dirigé jusqu'à une autre embrasure où passe un sentier. J'ai aperçu, à travers des branchages épineux, un petit villageois assis sur un tronc d'arbre jeté sur le sol. C'est un berger à avoir la panetière qui pend à sa ceinture. Il semble prendre lui aussi un profond plaisir à suivre des yeux les oiseaux. Il m'a vu de loin et ne s'inquiète guère de ma présence. Pour moi, ce n'est qu'un enfant que je rencontre là, pendant que je m'étais attentif aux péripéties du bain. Avez-vous remarqué comment les oiseaux se plongent dans la baignoire de verre d'une cage? Eh bien, leurs mouvements sont tout autres en pleine nature, quand ils ont leur liberté, quand ils jouissent largement des caprices de leur vagabondage. Il m'est arrivé plus d'une fois d'assister, près d'un cours d'eau, aux évolutions gracieuses, aux circuits aisés de l'hirondelle se jetant en avant, effleurant l'élément aquatique, bouillant d'un coup sa poitrine, se balançant et fendant l'eau et l'espace. Tous les oiseaux ne se baignent pas d'eux-mêmes. Ils trempent parfois seulement leur queue et la secouent. C'est un jeu auquel ils se complaisent longuement. Il y en a qui se plongent dans l'eau d'un seul bond. On croirait qu'on va les voir barboter comme des tarquins noirs, en enfonçant leur tête et en faisant apparaître leurs petits pieds palmés. D'autres sont plus calmes, plus attentifs et plus prudents. Ils sondent la profondeur de l'eau et n'y risquent seulement qu'une partie de leur corps. La légion des petits oiseaux a les mêmes gestes, ou peu s'en faut. La grêle anatomie de tout leur être les oblige à de légères attitudes. On retrouve, sous leurs ailes battantes, de minces silhouettes. Ils ont, au premier contact de l'eau, une sorte de trépidation qui se transmet partout, agitation nerveuse ou tremblement naturel. Puis ce sont des recommencements infinis, ce sont les mêmes jeux jusqu'au moment de l'éparpillement, de la fuite. Après que les volatiles avaient pris leur bain, il me semblait que leur chant n'était plus le même. Le gosier avait été largement humecté et les inflexions de la voix devenaient plus douces et plus tendres. Je sentais en même temps, en contemplant mes petits baigneurs, comme une réunion d'êtres repus. Ragaillardis et propres, ils s'abandonnaient à une sorte de lassitude. J'avais remarqué cependant, même au milieu de ce recueillement, quelques menus incidents, subites poussées, chocs inattendus, qui déterminaient un peu de désordre de pêle-mêle. De nouveaux venus, tentés par la fraîcheur de l'eau, pressés de boire et de s'y tremper, agitaient leurs ailes au milieu des groupes et chassaient les premiers occupants. Soudain, une envolée d'oiseaux s'est abattue sur le bassin. Oh, ceux-là sont plus gros que ceux qui les avaient précédés. Ils sont ronds et pansus. Ils sont supérieurs par la force et le nombre. Avides de se désaltérer dans l'auge de pierre, leur essor menaçant, leur violente irruption, ont amené une débandade générale. Oh, peut-être les fuyards ne sont-ils pas allés bien loin. Ils ont leur retraite dans les branches. Mais ceux qui les ont fait envoler ont pris possession de l'endroit qu'ils convoitaient. À leur tour de jouir des délices de l'eau. J'entends leurs chants, leurs modulations ardentes et vives. Oh, ce n'est plus le vague pépiment de tout à l'heure. Mais la bande est moins paisible. On ne sait quoi la rend turbulente. Une dispute s'élève et je vais assister à une bataille d'oiseaux. Ce sont des cris, des trilles de combat, des vocalises de défi et enfin des soupirs de défaite. Maintes plumes ont été arrachées. Plusieurs des combattants sont tombés dans l'eau. Mais n'ayons point d'inquiétude sur leur sort, il ne peut y avoir de noyade. Le vaincu ne tardera guère à se sauver. Il en aurait été quitte pour quelques coups, quelques légères blessures. Pendant que l'action se poursuit et passe par toutes les phases ordinaires, Je suis allé vers le côté où se tient le petit pâtre, témoin fréquent de ces événements. L'enfant, me voyant venir, s'est redressé et a fait entendre un air de flageolet qui a brusquement effrayé les oiseaux vainqueurs. Au bout d'un instant, j'ai revu d'autres oiseaux, si bien que je me suis mis à croire que les volatiles de tout à l'heure, ceux qui avaient été expulsés de l'abreuvoir, étaient de retour. L'instrument de musique avait sans doute aidé à le ramener. « Tu as donc, dis-je au garçonnet, un flageolet, et tu en joues aux oiseaux ?»« Ils me connaissent, me répondit-il, et je les appelle. Tu viens ici tous les jours ?»« Ben, je conduis ma vache, qui pâture là derrière, dans les herbes qu'elle aime. Je l'amène, et tout en la gardant, je m'amuse avec les oiseaux qui posent sur le bord du vivier. » Et comment cela ? Je les charme avec mon flutio, et ils me comprennent quand je leur parle. Je leur dis : Viens ici, bergeronnette, approche-toi, chardonneret, n'aie pas peur, petit pinson. Et tous répondent à ton invitation ? Presque tous, oui. Il y en a qui sont plus ou moins sauvages, mais j'ai même apprivoisé des merles. Cela ne demande pas mieux, ils aiment la musique. Et il y a aussi, reprend le petit pâtre, des jours où de méchants oiseaux, plus terribles que ceux qui sont venus il y a quelques minutes, se posent sur le bassin. Ce sont les oiseaux de proie, les hulottes, les corneilles. Alors les loriots, les pinsons, les fauvettes s'enfuient épouvantés. Et quand je puis, je protège les petits oiseaux, ceux qui ressortent les plus faibles, et je leur viens en aide contre leurs ennemis. Et tu es leur sauveur, je le vois, et tu connais bien tout ce petit monde. Oh, sûrement. Et le soir, à la nuit tombante, après une journée de chaleur, j'ai aussi aperçu ici des chats-huants, des chevêches qui venaient se baigner la tête en roulant leurs grands yeux. Et au clair de lune, j'ai surpris une fois la baignade du rossignol. Cette causerie m'a donné l'envie de demander au jeune musicien d'adresser son appel aux oiseaux. Je fais quelques pas pour me placer à distance. En effet, deux ou trois volatiles ont quitté le bord du vivier. Le petit pâtre a l'air souriant. Il est flatté dans son amour-propre. Si vous voulez essayer de vos flutiaux, vous verrez qu'il ne faut pas grand-chose pour les attirer. Merci, lui dis-je. En me rapprochant. Oh, je ne sais, hélas, si je pourrais faire un charmeur, mais j'aime ce qui charme. Encouragé par mes paroles, il s'exerce et joue pour jouer. Les oiseaux surviennent de plus en plus nombreux. Adieu le bain. L'abreuvoir est bientôt abandonné. Ce sont des sons un peu aigres. L'instrument abonde en fausses notes. L'enfant produit une série d'imitations de chants d'oiseaux d'après nature. « Je leur ai apporté, il y a 2 jours, me dit le musicien, des cerises de mon jardin. Ils s'imaginent que j'en ai encore à leur offrir. Mais tu les empêches de prendre leur bain ?»« Oh, c'est bientôt le soir, réplique-t-il, et presque tous se sont baignés à leur aise. Ils sont moins friands de ce plaisir. » L'enfant s'est levé un moment pour appeler sa vache. Elle est poursuivie par un taon et cherche vainement à l'écarter en faisant tournoyer sa queue. « Larousse ! » crie le petit berger. « Attends-moi ! » Mais d'un pas lourd, elle va vers le vivier. On dirait qu'elle veut y laver quelques gouttes de sang qui perlent sur son poitrail. Elle a posé un pied dans l'eau qu'elle éclabousse. Le peuple des oiseaux s'est sauvé tout d'un coup. L'animal trempe son mufle dans le bassin et renifle l'eau qui jaillit de ses naseaux. L'enfant a beau se démener, la vache n'écoute rien. Piétinant l'eau de plus belle, elle se redresse, ébahie, stupide comme un bourgeois, à l'âme grossière auquel il offre des puissances auxquelles il ne peut rien comprendre. Allô, Larousse, finissons. Il faut revenir à l'herbage. Elle se laisse faire. Il l'entraîne et la pousse devant lui. J'ai pu remarquer, après le départ de la vache, que le vivier était plus limpide. J'y voyais des herbes, des insectes, que je n'avais point aperçus tout d'abord. Le fond était troublé pour longtemps, et je me demandais si, vraiment, c'était là la fontaine, la source pure, où se mirait le ciel et autour de laquelle avaient résonné tant de ramages.